rentrer du mail au casseur oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Une cinquantaine d'organisations non gouvernementales féminines accusent leur présidente d'escroquerie. Avec promesse de voyager vers diverses destinations, ces ONG disent avoir versé près de 100 000 dollars américains à leur présidente sans réalisation des promesses. Rappelons que cette dernière est arrêtée et détenue au CPRK depuis le 19 juillet dernier. Cette situation relance le débat sur les organisations non gouvernementales de développement et leur impact dans la société congolaise qui en compte des milliers. Quel est l'impact des organisations non gouvernementales de développement dans votre milieu? Nous en parlons avec Jérôme Mansouki, assistant technique au conseil provincial de ONGD à Kinshasa. Titi Mputu, Berry Franklin, Lucha Kapol, Badanyama sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La situation d'escroquerie dénoncée par une cinquantaine d'organisations non gouvernementales féminines, accusant bien sûr leur présidente de les avoir escroquées à près de 100 000 dollars américains avec promesse de réalisation de plusieurs choses, y compris des voyages à l'extérieur de la RDC. Cette situation relance le débat sur l'impact des ONGD dans la société congolaise. Nous en avons plusieurs, des milliers bien sûr. Comment vous appréciez leur travail et les fruits de ces travails-là dans la société? 081 890 63 15, c'est notre numéro d'appel. Nous en parlons, comme je le disais tout à l'heure, avec Jérôme Mansouki, qui est assistant technique au conseil provincial de ONGD ici à Kinshasa. Avec nous en ligne, monsieur Jérôme Mansouki, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec les auditeurs le travail des ONG. Bien avant d'aller plus loin, la première question d'abord, c'est de savoir quelle est la mission traditionnelle d'une ONGD.
Merci pour la question Pierrot. Une ONGD a une mission profonde, c'est celle d'aider la population, d'accompagner la population à la recherche de son développement socio-économique et culturel. Donc c'est à ce titre-là que les ONGD, ils ont cette mission première de pouvoir accompagner la population dans la recherche de son bien-être. Ça, c'est la première mission qui est révolue à une organisation gouvernementale.
Mmh. Mais en ce qui concerne son, je peux dire, son caractère juridique et comment, quels sont les principes pour qu'on puisse dire que ça, c'est une ONGD?
Pour qu'on dise qu'on a affaire à une ONGD, et il est question d'avoir une certaine légalité, obtenir les documents auprès du ministère de la Justice qui permet à l'organisation de pouvoir fonctionner, mais aussi avoir des textes notariés au niveau de l'hôtel de ville, au niveau de la commune, que l'on soit reconnu à travers des documents qui vous accordent cette légalité de pouvoir fonctionner comme une organisation de gouvernement. Ça, c'est du point de vue juridique, ce sont les documents qui attestent, et si vous n'en avez pas, il ne faut pas qu'on se dise ONGD. Donc, c'est la première des choses, il faut avoir des documents et une certaine légalité qui vous est accordée par l'État à travers les documents dont je viens de citer tout à l'heure.
Mais dans le caractère maintenant du travail d'une ONGD, c'est quoi? C'est un travail à but lucratif, un travail sans but lucratif, c'est un travail de rémunération, une mission caritative? Quel est le caractère du travail d'une ONGD?
Conformément à l'article 004-2001 du 20 juillet, et portant à disposition applicable aux organisations non gouvernementales, aux organisations à but lucratif et aux établissements d'utilité publique, les organisations non gouvernementales, ils ont pour mission première de pouvoir s'organiser de manière à ce que l'on puisse être en ordre avec les dispositions par rapport à cette loi. Donc, il n'est pas question qu'une organisation, bien sûr qu'il y a des petites activités qui peuvent générer des revenus, mais dans la première des choses, une organisation non gouvernementale qui se dit Asbel doit observer à juste titre cette disposition d'être une organisation qui travaille sans pour autant chercher les gains de ses membres. Donc, c'est une forme reconnue par l'État et c'est à ce titre qu'il fonctionne en tant qu'Asbel. Donc, dans la première des choses, il ne faudra pas que les ONG puissent mettre en premier lieu l'argent. Donc, les gains, on peut l'avoir, les petits services qu'on peut rendre, mais en tout cas, là, leur mission première, il faudra qu'ils travaillent sans but lucratif, c'est-à-dire ne pas chercher les gains pour ses membres.
Et par rapport à l'appartenance, elles peuvent être aussi subventionnées par les politiques ou bien les ONG ont une indépendance, que ce soit des visions et une indépendance aussi politique ou une indépendance financière.
Oui, une indépendance politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on les appelle organisations non gouvernementales de développement. C'est là, l'État n'a pas vraiment une mainmise sur la gestion des ONGD. Et ça, c'est une caractéristique qui est reconnue aux ONGD. Mais aussi, ils peuvent aussi contacter des partenaires extérieurs qui peuvent leur accorder des financements pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est évident. C'est dans leur façon de travailler. Ils ont besoin des subventions qui peuvent peut-être émaner de l'État, et soit des organisations extérieures qui peuvent apporter des appuis financiers pour pouvoir permettre à ces organisations de pouvoir fonctionner. Donc, ce n'est pas exclu, une organisation qui a la capacité de pouvoir négocier, trouver des partenaires, et ça va de soi, ils peuvent les aider à pouvoir obtenir des financements et fonctionner. Mais l'État aussi, de son côté, a la mission première de pouvoir aider ces organisations qui fonctionnent pour à travers le ministère du Plan, pour que ces derniers puissent avoir des appuis financiers et opérer à sa place. Puisque les ONG, ils ont la mission de faire une marche longue de l'État, puisque à certains moments, l'État est limité. Ce sont les ONG qui prennent la place de l'État pour pouvoir aider l'État à fonctionner, à réaliser des activités que l'État n'arrive pas à faire à certains moments.
Et bien sûr, parce que nous parlons de l'impact, on sait qu'il y a aussi des problèmes. Nous sommes partis d'une dénonciation d'escroquerie dans le milieu. C'est pour cela que nous évoquons le cas aussi de l'impact. C'est vous qui gérez ces structures depuis plusieurs années. Quel a été l'apport, d'une manière brève, l'apport des ONGD dans le développement du pays quand on regarde à un certain moment vers les années, si on peut dire 90, on a vu une explosion de ONGD dans le pays. Quel a été l'apport, d'une manière globale, des ONGD?
Vers ces années là-bas, effectivement, nous avons vécu un essaimage des ONG à travers la ville. C'est pas le fait qu'à un certain moment, l'État était vraiment démissionnaire. À ce moment-là, les partenaires extérieurs avaient placé plus confiance aux organisations non gouvernementales pour pouvoir aider la population à pouvoir se retrouver dans le processus de développement. C'est ainsi que la grande confiance avait été accordée à ce moment-là aux organisations non gouvernementales qui avaient bénéficié de beaucoup des appuis de la part des partenaires extérieurs. Donc leur rapport à ce moment-là était d'aider la population à travers plusieurs thématiques, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé, le développement, pour que les populations qui étaient vraiment délaissées pour compte puissent se retrouver dans leur processus de développement. C'est à ce moment-là que les ONG avaient pris vraiment une certaine ascension qui leur avait permis de pouvoir payer une place de choix dans le cadre de l'accompagnement de population et à travers le processus de développement.
Merci, on vous garde en ligne. On va aussi écouter les auditeurs des Radio Capi en ce qu'ils pensent du travail des ONGD dans leur milieu, leurs propositions, mais aussi leurs préoccupations sont les bienvenues dans cette émission 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
La Guiloua, vous nous appelez de Kalemie au Katanga et nous faisons le point sur le travail des ONGD dans nos milieux et leur impact. Vous êtes avec nous. Bonjour La Guiloua.
Bonjour Kero et la Mégie. Bonjour à notre invité. C'est très encourageant le travail que les ONG sont tentés de mener dans notre pays Congo. Suite à ce cas qui est sous examen d'abord de cette escroquerie, tout est parti de manque de la volonté de celle-ci qui était en tant que la chef. Lorsqu'on voit une femme qui détourne un montant pour les ONG, c'est une turbulence. Cela, ça compte décourager les particuliers de bonne volonté qui aident les autres pour leur fonds propres. D'ailleurs, les ONG sont à présent les personnes morales et qui pensent souvent le social des Congolais. Suite à ces activités qui sont tentées de mener, dans nos milieux locaux que nous sommes, car les personnes qui n'ont pas de moyens, ensuite aux ONG, elles ont maintenant les moyens. Autres contribuent à la prise en charge des personnes vivant avec handicap, vivant avec le VIH/SIDA. À cet effet, nous, notre souci majeur n'est pas seulement celui dont la femme vient de commettre en tant qu'une infraction, mais nous demandons seulement la loi pénale puisse faire son travail et la justice aussi puisse faire son travail pour que un jour, l'une ou l'un qui sera en commis à ce poste ne puisse pas encore revenir à ce bêtise. Car, quand nous voyons très bien, les ONG ici, à Calémy, que nous sommes, sont en train de penser pour la construction des classes, des écoles, et cela c'est pour le développement du social des Congolais.
Mm-hmm.
Si le milieu, les uns et les autres n'ont pas de travaux, suite à ça, les Congolais, qui sont les derniers consommateurs, nous, le peuple que nous sommes, nous venons de trouver des boulots. Ainsi, nous demandons à la loi, soit à la loi pénale, de pouvoir faire son travail.
Merci, Laguillois. Vous avez articulé votre intervention en deux volets. D'abord, vous avez fait le point sur l'introduction, la situation des escroqueries déplorées, ce que tout le monde déplore, bien sûr. Mais au-delà du fait qu'il y ait une escroquerie dans le domaine des ONG, vous jouez le travail qui est fait, surtout à Calémy, où les ONG se donnent à la construction des écoles par ricochet, ce qui accorde aussi de l'emploi à la population. Merci beaucoup pour cette témoignage. Merci. Nous retournons ici dans la capitale, à Kinshasa. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Lamégé. Bonjour à tous les électeurs de Kinshasa.
Vous êtes ici à Kinshasa. Nous faisons le point sur l'impact des ONG. Au-delà du cas d'escroquerie et de tout ce qui se pose, parlez-nous un peu de ce que vous voyez les ONG faire dans votre milieu, ce que vous avez déjà bénéficié dans la société par l'entremise des ONG.
Merci beaucoup, monsieur Lamégé, pour votre question. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter mon prédécesseur, mais je voudrais aussi lui rappeler qu'en matière des ONG, lorsqu'il y a un litige, ce n'est pas la loi pénale qui s'applique, parce que les ONG, étant des organisations de droit privé, sont régies par la loi civile. C'est juste une information en passant.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Monsieur Lamégé, dans une société, les gens peuvent s'unir, soit pour chercher un gain, là on voit les sociétés commerciales, soit pour le bien-être de la communauté. Voilà, on voit les ONG. Alors, je voudrais qu'on utilise le terme générique qui est l'ASBEL. La loi que l'invité a citée du 20 juillet 2001 est une loi qui régit les associations sans but lucratif. Et c'est dans cette grande catégorie qu'on voit les ONG. J'ai lu l'article 2 de cette loi qui dit que les ASBEL sont catégorisées en trois sortes. On a les associations à caractère culturel et éducatif, on a les ONG, on a aussi les associations confessionnelles qu'on appelle églises. Alors, au travers de cette définition, M. Lamège, nous comprenons qu'une ONGD, comme l'a dit l'invité, est une association sans but lucratif. Elle n'est pas créée pour s'enrichir personnellement. Elle est créée pour aider la communauté. Elle n'appartient pas à un seul individu. Elle appartient à tous ceux qui ont souscrit à ces statuts. Elle est là comme un groupe de pression, c'est-à-dire elle influence les gouvernements pour toutes ses décisions. Elle est apolitique. Mais lorsqu'il faut faire une étude sur terrain, en tout cas, ça c'est encore plus grave qu'à l'intérieur. Je vais vous donner quelques cas qui font aujourd'hui que les ONG ouvrent une brèche aux discussions quasi interminables. Je prends les cas de personnes, de promoteurs des ONG qui sont là, qui mettent tout à leur tête. On parle de président en vie aujourd'hui. Donc vous avez un président d'une ONG qui confond l'ONG à un bien privé. Il y a des ONG aujourd'hui presque satellites. J'en ai un dans mon quartier, une dans mon quartier. Cette ONG ne fonctionne que dans la maison du promoteur. On ne sait pas où est le bureau, où est la chaise. Nous l'avons dit au début que c'est une association. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ne se voient qu'eux-mêmes. Il est là lui-même et lorsqu'il n'est pas là, l'ONG n'existe pas. Nous avons des cas de détournement, comme vous l'avez dit. Avant ces cas que vous avez cités, j'ai connu un autre cas, nous avons été invités à Fatima. C'était encore plus grave, un monsieur avait encore détourné l'argent. Nous avons aussi les cas de président en vie des ONG. Et les statuts prévoient que les mandats sont prévus pour un temps, mais ils ne respectent pas. Et ce qui est grave, monsieur Lamégé, l'objet pour lequel elles ont été créées, nous ne les sentons pas. Nous comprenons là qu'elles ont été créées pour s'enrichir et non pour aider la communauté. Nous avons les cas de détournement, comme nous l'avons dit. Nous avons des ONG qui n'ont pas de structure. Nous avons aussi les ONG, je pouvais passer par là, les associations confessionnelles aujourd'hui. C'est le cas des églises. Vous verrez un pasteur qui confond une église à son bien privé. Bref, monsieur Lamégie, lorsqu'on fait une étude sur terrain, les constats sont amers. Nous ne voyons pas des actions palpables. Quelles sont les causes, selon moi? La première cause, monsieur Lamégie, c'est l'ignorance des idéaux et principes de l'ONGD. Les gens ne savent pas c'est quoi une ONGD. Il est comme ça pour sensibiliser les gens, pour leur dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Et deux, il y a aussi l'ignorance de la loi qu'il a invité à citer, la loi numéro 04-2001 du 20-2001. Cette loi prévoit les procédures appliquées pour avoir une ONGD. Quelles sont les mentions qu'on doit retrouver? Les gens ne savent pas. Et des trois, il y a la mauvaise foi des promoteurs ou des initiateurs. Ce sont eux qui sont à la base de tout. Dès qu'ils reçoivent une somme d'argent, ils fuient et ils font n'importe quoi. Alors pour finir, je voudrais, pour que l'ONGD revienne vraiment à son but initial, il faudra que l'État, qui est le premier responsable, sensibilise la population. Leur fait comprendre qu'une ONGD, comme le définit l'article 35, est une association sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique, qui a pour but de concourir au développement socio-économique des communautés locales. C'est ça une ONGD. Ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas une société commerciale. Alors l'État a la première responsabilité de sensibiliser au travers des émissions, au travers des lois, dire aux gens, voici la loi, qu'est-ce qu'on peut faire, pour respecter les choses. Deuxièmement, je voudrais ici appeler la conscience des promoteurs et initiateurs des ONGD. Je voudrais leur faire comprendre que ces histoires ne leur appartiennent pas. Une ONGD est une association. D'ailleurs, pour que l'État puisse légaliser vos statuts, il faut qu'on voit la signature d'au moins 20 personnes. Donc, vous ne pouvez pas les transférer à votre bien privé. Je voudrais leur rappeler la conscience. L'argent qu'on vous ramène, c'est pour la communauté. L'argent qu'on vous ramène, c'est pour développer la communauté, c'est pas pour vous. Et pour finir, monsieur et la mesure, l'ONG est régie par des statuts. Ces statuts sont comme la loi qui détermine les modalités des présidences. Je voudrais là dire aux autres membres des ONGD de ne pas avoir peur de leur président, de leur coordinateur. L'ONG est une affaire de tous. Lorsque vous remarquez un non-respect des statuts, il faudra, n'est-ce pas, trancher à l'amiable. Lorsque ça ne tient pas, voir le juge civil pour trancher. Parce qu'il y a aussi l'indifférence des justes, n'est-ce pas, qui profine l'oppression des méchants.
Merci beaucoup, Omar. Voilà.
Oui, voilà un peu ma préoccupation. Je vous remercie.
Merci, Omar. Vous avez expliqué beaucoup de choses, mais je retiens pour vous. Le problème de détournement de fonds, le problème des présidences à vie, c'est qui aujourd'hui ternit l'image des ONG. Vous avez aussi évoqué le changement des missions, hein, les gens qui avaient créé une structure pour une telle mission et qui changent en cours de route. Et vous avez interpellé les uns et les autres, l'État, les animateurs des ONG, les membres, pour voir comment remettre les ONGD à leur place, pour qu'ils jouent vraiment le rôle du bien-être dans la société. Merci beaucoup, Omar. Théodore, vous êtes à Mbujimayi, au Kessai Oriental. Bonjour.
Bonjour, M. Perrault, et merci pour la parole.
Est-ce qu'il y a-t-il des actions palpables, l'impact que vous avez vu en Mbujimayi provenant des ONGD qui travaillent sur terrain chez vous?
Si aujourd'hui, parmi les ONG, on apprend qu'il y a escroquerie à la place du développement social, économique, intellectuelle, morale et spirituelle des populations et à l'éducation des citoyens et citoyennes congolaises, par exemple. C'est vraiment la honte pour le pays et surtout pour la société civile qui regroupe tous ces ONG, ces associations et d'autres associations sans but lucratif. La société civile a beaucoup de travail à faire pour vraiment remettre les ONG sur les rails. Mais vraiment, à ce sujet, nous pouvons dire que l'impact des ONG devrait être basé sur les objectifs bien précis, sans beaucoup d'obstacles qui peuvent créer des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les églises, là, ce sont les ONG, ils ont des objectifs, ils ont des projets, c'est apporter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, s'il y a des divisions dans les églises, aujourd'hui, c'est suite à l'argent. Alors, c'est ainsi que nous disons, qu'ils doivent bien avoir des objectifs bien précis,
oui,
sans beaucoup d'obstacles.
Oui, Théodore, s'il vous plaît. Oui, je sais qu'il y a des problèmes. Si nous considérons les églises, les conflits qui peuvent être dans les ONG, ça c'est un problème qui se pose. Mais nous voulons voir pratiquement sur terrain si vous avez déjà bénéficié dans votre milieu d'une action pour dire voilà, chez nous, on a eu une telle amélioration qui provient d'une ONG. Voilà un peu ce qui peut nous aider à aller un peu plus au concret, hein, les débats pour qu'ils ne restent pas général, mais qu'ils restent un peu plus concret avec des exemples. Si en Mbujimayi, vous avez vu des activités, vous avez vu l'impact, parce que le travail ici, c'est l'amélioration, comme on a dit. Alors, y a-t-il eu des actions sur le terrain que vous pouvez mettre à la charge d'une ONG pour dire, voilà, les choses ont évolué chez nous grâce aux ONGD?
Oui, ici chez nous, en Bougemar, les choses ont évolué grâce à l'ONGD, par exemple, de maman. Nous avons une ONGD qui est dirigée par des mamans qui encadrent les jeunes femmes, les jeunes filles, pour la fabrication, par exemple, de savon, des bagnes, beaucoup de choses. Ils mettent cela en vente. Mm-hmm. Il y a les ONGD qui sont en train d'encadrer les jeunes marchands qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont marchands et qu'est-ce qu'il faut faire face à l'État. S'il y a des taxes et des impôts à payer, qu'est-ce qu'il faut faire? On encadre les marchands et les petits marchands pour les amener à payer les impôts. Et de l'autre côté, on demande aussi à l'État une contrepartie. Bon, dans ce sens, ici en Bougemar, il y a les ONGD comme ça qui font un travail vraiment impeccable.
C'est-à-dire qu'au-delà, merci beaucoup pour ces témoignages. Nous avons besoin vraiment de témoignages comme ça pour voir l'impact des ONGD. Mais à côté de cela, vous avez évoqué le fait aussi qu'ils puissent travailler en respectant les objectifs qui s'étaient assignés à la création. Merci beaucoup de ces témoignages, Théodore. Nous retournons à Kinshasa. Maître Francis, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et nous savons que dans beaucoup de nos villes, on a des centaines de ONGD, mais nous faisons le point aujourd'hui sur leur impact dans la société. Vous avez vu quand même, au-delà de tout ce qu'il y a comme problème, en Bougemar, il y a des mamans qui s'adonnent à un cadre de jeunes filles à fabriquer les savons, fabriquer le pain. Ça permet de vendre, d'avoir le moyen de subvenir à ses besoins. Et à Kinshasa, quel témoignage avez-vous de l'action des ONGD?
Oui, en toute honnêteté et d'entrée de jeu, donc ce que je pourrais dire, c'est d'abord féliciter le courage et le mérite de certaines ONG qui travaillent réellement avec des objectifs qu'elles se sont réellement assignés. Comme ici à Kinshasa, je ne suis pas ingrat, je dois le dire, on a bénéficié de beaucoup de dons des ONG. Et il y a même des ONG qui œuvrent dans des quartiers pour des objectifs purement caritatifs. Mmh. Par exemple, enlever les sachets, donc améliorer tout ce qui est environnement. Mais cela ne suffit pas, parce que je faisais aussi partie des ONG. Mmh. Et quand on voit ce que l'on donne comme cotisation, et ce qui se fait sur le terrain, en tout cas, c'est ce qui nous a découragé de quitter ces ONG. Et conformément à l'article 37 de la Constitution, qui dit en substance que le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel de la population. Mmh. Donc c'est ça même, la Constitution a déjà tracé la ligne de travail des ONG. Mais on voit que les ONG sont confrontées à des business. Comment peut-on concevoir dans un état de droit qu'une ONG se trouve dans la maison du promoteur? Mais c'est plus une ONG, c'est plutôt une œuvre de la famille. Et tout ce que l'on va donner comme cotisation, ça ne sera pas pour des objectifs qu'elles se sont assignés, mais pour des appétits familiales et que sais-je encore. Et par rapport à mes propositions, l'État doit sensibiliser d'abord la population sur les rôles des ONG, pour que les citoyennes et citoyens ne se fassent plus escroquer comme c'est le cas du sujet dont nous en parlons. Le Parlement, qui est l'organe législatif, doit prendre une loi qui donnera l'occasion à l'État de contrôler et de suivre les activités de ces ONG. Et le Parlement doit lever aussi la réglementation des ONG par la loi civile pour que la loi pénale s'applique. Parce qu'il s'agit d'une escroquerie. Et l'on doit appliquer aussi la loi pénale conformément à ses articles 20, 21 et 22 sur la complicité. Parce que ces ONG, donc c'est tout un réseau. Ce n'est pas seulement une ONG ou bien une seule femme, non. Si on pourrait demander à cette femme comment est-ce qu'elle a su escroquer ses 150 ou 100 000 dollars, je ne sais pas vraiment le montant réel, elle ne l'a pas fait seule. Il y a eu des personnes, donc c'est toute une entreprise que je pourrais qualifier de criminelle. Donc voilà un peu ma préoccupation pour aujourd'hui, et j'aimerais profiter aussi pour souhaiter le joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui, parce que je suis né aujourd'hui.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, joyeux anniversaire à vous et à tous ceux qui fêtent aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça aussi, ça fait plaisir sur les antennes. Mais en revenant à notre débat, vous avez bénéficié dans votre quartier des actions des ONG dans les domaines, par exemple, de l'environnement. l'environnement, avec la lutte contre les salubrités, mais au-delà de tout, vous vous inquiétez sur le problème des balances. En ce qui concerne vos cotisations, vous avez quitté l'ONGD par rapport à vos cotisations et les actions qui sont réalisées sur terrain, mais vous pensez qu'il faut beaucoup de sensibilisation. S'il arrive qu'il y ait des cas d'escroquerie, c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés sur le travail des ONGD, mais vous souhaitez aussi qu'on ait une loi qui permette à l'État de pouvoir contrôler le fonctionnement des ONGD, mais pourquoi pas aussi des cas de détournement d'escroquerie soient traités au pénal qu'au civil. Merci beaucoup, Maître Francis. On termine cette première partie des auditeurs avec Maître Machaka qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Bonjour, Maître.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Mais nous faisons ensemble les points sur l'impact des ONG dans nos milieux. Parlez-nous de là où vous êtes à Lubumbashi. Dans quel domaine voyez-vous les ONGD, par exemple, travailler à porter du changement dans la population?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot, de m'avoir accordé encore cette opportunité après une longue période de silence. Vous savez, Monsieur Pierrot, ici à Lubumbashi, il y a les ONGD qui jouent un rôle capital dans le développement de la population. Je vois souvent, il y a les ONGD qui encadrent les mamans maraîchères, il y a ceux qui se donnent aux orphelins, et ainsi de suite. Mais ce que moi je peux demander aussi à notre gouvernement, M. Pierrot, il faut que notre gouvernement puisse préserver un budget, ou voter un budget spécial pour le développement ou la promotion des ONG locales, puisqu'on ne peut pas toujours continuer à attendre les financements en provenance de l'extérieur. Mm-hmm. Or, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus par les ONG, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les campagnes. Pourquoi pas notre gouvernement aussi ne doit pas prendre ça au sérieux, budgétiser un montant là consistant pour le développement et encourager les ONG qui sont créées par la population locale, tout en mettant les garde-fous pour le bon déroulement des ONG. Puisque quand il y a des détournements aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du laisser-aller. Notre gouvernement ne s'intéresse pas beaucoup aux ONG locaux, Monsieur Pierrot. Si notre gouvernement prenait les histoires au sérieux, en voyant le travail que les ONG sont en train de rendre à la population congolaise, ils devraient aussi mettre des garde-fous et prendre ça au sérieux afin de promouvoir le développement des ONG, puisque les ONG aujourd'hui, M. Pierrot, en tout cas, ça contribue beaucoup au développement de la population. Comme les mamans maraîchères, j'ai fait prendre le cas des ONG qui encadrent les mamans maraîchères ici, qui nous produisent des choux, des légumes, ainsi de suite. Ces mamans-là, quand même, aident la population, puisque aujourd'hui, ils sont en train de combattre une certaine carence alimentaire, M. Pierrot.
Voilà, merci beaucoup, Machaka Maître. Vous êtes à Lubumbashi. Vous souhaitez qu'il y ait un budget conséquent pour subvenir, pour subventionner les ONGD et éviter qu'ils n'attendent toujours des subventions de l'extérieur, que l'État puisse assez les subventionner, mais pour leur permettre de faire un travail, mais aussi mettre des garde-fous pour éviter les cas de détournement. Et vous encouragez ceux qui encadrent les mamans maraîchères à Lubumbashi. Jean, vous gardez la ligne. On va revenir à vous le temps de permettre à Jérôme Mansuki de réagir à ces premiers groupes d'auditeurs, leurs propositions, leurs inquiétudes, mais aussi leurs questions. On va débattre cela tout à l'heure avec notre invité.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Jérôme Mansuki, vous avez suivi nos auditeurs. Ils se dégagent dans leurs propos beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à la manière dont les ONGD fonctionnent, que ce soit les non-respect des statuts, les présidents à vie, les ONG qui n'ont pas des sièges. Mais il y en a aussi qui ont encouragé, qui ont des témoignages de ce qui se fait dans leur milieu. Il y en a aussi qui ont proposé des pistes, des solutions pour améliorer leur travail. Et vous qui êtes dans le conseil régional, provincial de gestion des ONGD, est-ce que vous eu égard à tout ce qui a été dit par les auditeurs, est-ce que vous avez la même mise sur les jeunes aidés? Comment cela se passe-t-il? Est-ce que vous les contrôlez? Vous les gérez? Comment on peut améliorer tout ça par rapport au conseil qui a quand même l'œil dans ce qui s'est fait au niveau des ONGD?
Merci Pierrot pour la question. Nous, en tant que réseau des organisations non gouvernementales de développement, nous avons une mission première de pouvoir aider ces organisations à pouvoir à organiser leur travail. C'est-à-dire, nous organisons des descentes sur terrain auprès de nos organisations membres, évidemment pour ceux qui sont membres chez nous, pour que ces dernières puissent s'organiser, c'est-à-dire avoir les textes de fonctionnement, avoir un siège et pouvoir respecter les textes statutaires. Mais dans l'application, puisque nous ne sommes pas chaque jour avec elles, il y a des déboires qui se font sur terrain. Mais nous, dans notre mission première, je vous dirai clairement, Pierrot, que nous sommes engagés à une mission de pouvoir aider les ONG à s'organiser, à bien rendre leur travail sur terrain. Et en suivant tout ce que nous faisons comme activité sur le terrain, et nous les accompagnons et de manière à ce qu'ils puissent s'organiser, avoir des sièges, respecter les mandats des membres des organisations. Et ça, c'est la mission qui nous est offerte. Puis ces ONG, il faudra toujours le dire tout haut, il y a des déboires. Et puis nous déplorons certaines situations qui sont alarmantes, nous les vivons aussi. Nous nous prêchons plus sur la bonne gouvernance de ces organisations, mais quelque part, il y a toujours des canards boiteux qui continuent à semer le désordre dans ce secteur. C'est ce qui fait que beaucoup d'organisations ici, ils sont collés des étiquettes de mauvais gestionnaires, mais est-il qu'il y a quand même des organisations qui respectent les clauses de leur statut, qui les appliquent, qui ont des sièges, et quelque part, il y a, comme je le disais, des canards boiteux qui semblent toujours créer un peu de désordre dans ce secteur. Ça, il faudra vraiment que je le dise tout haut, que quelque part, il y a des déboires.
Mais quand on regarde le travail comme il s'est fait sur terrain, les problèmes de gestion, c'est aussi le problème des renforcements des capacités pour avoir l'impact. Est-ce que vous arrivez aussi à faire l'évaluation pour vous rendre compte si effectivement cette ONG qui est par exemple affiliée chez vous respecte ses statuts, travaille dans sa mission et a de l'impact sur le terrain? Et au cas où l'ONGD qui est affilié, par exemple, quand on ne parvient pas à respecter sa mission, à rester dans la logique, y a-t-il des sanctions? Comment on fait pour l'aider à se relever ou à améliorer?
Nous, là, notre réseau des organisations non gouvernementales de développement a un œil très regardant par rapport à l'organisation des ONG des membres. Là, en tout cas, nous tenons toujours à faire respecter les principes. Une organisation qui n'entre pas dans la ligne de conduite telle qu'est édictée par notre réseau, automatiquement, nous les mettons dehors, puisqu'ils font la honte des organisations. Donc, nous faisons en sorte que ceux qui sont membres chez nous puissent être des modèles. Et c'est à travers des renforcements des capacités, c'est à travers des accompagnements sur le terrain, et nous les voyons, nous les conseillons, nous les mettons en relation avec les partenaires pour que les choses marchent. Mais ceux qui semblent vraiment se déraper de notre ligne de conduite, automatiquement nous les mettons de côté. Là, nous ne faisons pas les sentiments avec les organisations membres. Donc nous sommes vraiment très très regardants par rapport au respect des principes. Ces organisations, je vous le dis, nous sommes là, réseau des organisations gouvernementales des ONG de Kinshasa. Nous avons la mission première de renforcer les capacités de nos organisations, de les accompagner sur le terrain de manière à ce qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc, quelque part, s'il y a des déboires, Pierrot, je vous l'ai dit, clairement, en tout cas, nous ne mettons pas notre langue en poche, nous les mettons de côté.
Mais par rapport au niveau de collaboration avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a deux auditeurs qui ont pensé qu'il serait mieux au-delà du tout, que l'État puisse avoir aussi un œil dans ce qui se fait au niveau des ONG. Et là, cette question, je m'en vais la structurer en deux. Il y a le problème de subvention aujourd'hui, à quoi ressemble la subvention que les ONG reçoivent de l'État. Et par rapport à la collaboration avec l'État, y a-t-il un œil regardant pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des ONG auprès du pouvoir public?
Je le disais tantôt, Pierrot, quand vous dites organisation non gouvernementale de développement, quelque part, l'État n'a pas une mainmise sur la gestion des organisations. Mais cela est vrai que quand nous faisons nos rapports, nous envoyons nos rapports auprès du ministère du Titel pour qu'ils voient qu'est-ce que les ONG font sur le terrain. Mais du point de vue des appuis financiers, des subventions, l'État aussi a une part de responsabilité dans tout cela, puisque l'État n'accorde pas de subventions aux organisations. Donc nous sommes tous là, dehors, nous tentons toujours à tourner le bras vers l'extérieur pour demander des subventions. Et pourtant l'État, il veut organiser des circuits pour aider les ONG à obtenir des financements sur place. Ces ONG qui nous donnent l'argent, des ONG étrangères, ils reçoivent l'argent de leur gouvernement, pourquoi pas les nôtres ici? Donc on se plaint de ce côté-là, parce que l'État il nous a abandonnés, nous sommes des enfants des parents pauvres, nous sommes abandonnés par notre triste propre, notre sort. L'État ne nous subventionne pas. Nous sommes en train de nous démener avec nos propres moyens. Et dans l'entretemps, l'État vient à travers ses services pour pouvoir récupérer encore des fiscs auprès des ONG. Ça, c'est aberrant. C'est comment comprendre ça? Au moment où l'État devrait nous subventionner, il ne le donne pas, mais nous envoie des services qui viennent récupérer des fiscs auprès des ONG membres. Et comment on va fonctionner à ce moment-là? Donc, nous sommes étranglés par rapport à ce système. Donc, l'État doit aider ces organisations. Puisque nous sommes en train de faire le travail que l'État n'arrive pas à faire sur terre, nous le faisons à sa place. Au lieu de pouvoir nous subventionner, il nous abandonne. Et dans notre temps, nous sommes en train de chercher des partenaires extérieurs qui ne donnent pas plus que tous ces partenaires ont préféré venir ici opérer sur le même terrain avec nous. Donc il y a maintenant un chevauchement, on ne sait pas fonctionner dans ce système.
Mais quand on regarde le travail des ONGD sur terrain, les besoins de la population et les subventions que vous recevez, supposons par exemple que vous puissiez recevoir une subvention de l'extérieur, est-ce que le bailleur des fonds peut vous proposer un domaine d'intervention selon ses besoins ou l'ONGD est libre de choisir en fonction des besoins de la population où il peut s'orienter avec la subvention qu'il reçoit, par exemple, de l'extérieur?
Bien sûr que oui. La main qui donne, c'est la main qui dicte aussi. Parfois, quand un partenaire vous finance, il vous donne une certaine ligne de conduite. Il vous dit, moi, je voudrais que vous puissiez opérer dans tel secteur. Bon. Vous n'avez pas de choix quand vous avez besoin d'avoir des moyens. Vous allez toujours vous rallier aux principes dictés par les partenaires. Donc, à un certain moment, on est parfois étouffé. On ne sait pas faire des activités qui répondent à nos besoins sur place. Parfois, on répond aux besoins des partenaires. Ça, c'est une forme de travail que nous acceptons d'une manière ou d'une autre. Puis on n'a pas de choix, c'est malade. C'est celui qui vous amène des moyens et vous dit, je voudrais que vous puissiez opérer dans telle thématique. Tout ça, j'ai des moyens. Vous allez voir, si dans votre secteur, vous avez cette thématique, automatiquement, vous vous branchez à ce partenaire pour pouvoir obtenir quelque chose pour fonctionner. Mm-hmm. Donc, des fois, on est limité. On ne répond pas vraiment aux besoins, par exemple, des membres de l'ONG, mais plutôt des besoins de financiers. Ça, c'est évident.
On vous garde en ligne, on va écouter encore les auditeurs. Je rappelle, 081-809-1315, le numéro d'appel. Nous faisons les points sur l'impact des ONGD dans notre milieu. Plusieurs témoignages dans cette émission, mais aussi des pistes et des solutions pour voir comment améliorer le travail que font ces ONG. Des gens, vous nous appelez de Kinshasa, dans la capitale. Bonjour. Vous avez déjà bénéficié d'une action des ONGD dans votre milieu. Donnez-nous un témoignage de ce que vous avez déjà vu les ONGD faire là où vous habitez à Kinshasa.
Ok, ça va être limité facilement dans la partie de le quartier qu'on appelle Kinshasa. Mais jusque-là, je vois seulement écrit dans certaines boutiques ONG telle, il y en a beaucoup sur les boutiques. Mais voir les actions comme ça concrètes et organisées, puis je suis là, je n'ai encore rien vu. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans notre pays, le mal est que le gouvernement soutient plus ou protège, entre guillemets, les ONG internationaux. Et pourquoi? Parce que là, ça paye bien. Ils viennent avec les financements par rapport aux ONG nationaux qui ont une faible revenu parce qu'ils n'ont pas de partenaires. Et là, ça fait maintenant qu'il y a beaucoup de magie. Aujourd'hui, nous organisons cette émission parce que on a pris la main au sac et nous, ONG qui a pu faire ce qu'il a pu faire pour remettre comme un dégât. Mais en dehors de cette ONG et d'autres, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'autres gaffes qui ont été commis dans d'autres ONG, mais qu'on ne peut pas déceler. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de contrôle. Même si vous êtes organisation non gouvernementale, mais vous opérez dans un état quelconque, bien précis. Et l'État congolais aussi, à ce que je sache, perçoit aussi les taxes, ces ONGP, certaines taxes. Alors, c'est-à-dire, le gouvernement doit avoir aussi un œil quand même là pour voir concrètement, même s'il y a des actions sociales, le gouvernement doit voir, est-ce que ces actions répondent aux besoins de la population dans les milieux donnés. Et non seulement vous, comme vous êtes parti, vous nous amenez de l'argent, alors on vous laisse faire ce que vous voulez. Non. On a quand même un État, on a des institutions démocratiques.
Alors, on doit contrôler tout ce qui se passe dans un État pour qu'il n'y ait pas des fraudes de soudivants comme ce que nous déplorons aujourd'hui.
Mm-hmm.
Alors, seulement que nous devons encourager ces jeunes, je pense que ça nous aide quand même, surtout dans les faits, dans l'arrière-pays, là où l'État existe, mais peut-être n'arrive pas à faire certaines actions. Et ces jeunes, ils sont là pour aider l'État. Alors, on doit avoir le soutien de l'État ou du gouvernement pour que la population soit aidée et qu'elle vive aussi comme les gens dans d'autres milieux. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Jean. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y a dans votre quartier à Limité, Kinshasa, ici à Kinshasa, vous passez devant les boutiques, devant les pharmacies, vous trouvez, on a écrit ONGD, telle pharmacie, telle, tout ça. On va aussi demander à notre invité si on peut se cacher derrière l'ONGD pour avoir d'autres activités, emporter des biens, par exemple. Mais il se pose un problème pour vous du déficit, du contrôle, hein, pour savoir si effectivement l'État peut voir si les ONGD qui sont installées dans un secteur donné, leurs activités répondent réellement aux besoins de la population. Et vous souhaitez aussi qu'ils soient, les ONGD locales puissent être couvertes, soutenues par le pouvoir public et qu'ils puissent aussi les protéger, plutôt qu'ils protéger ou soit faciliter seulement le travail aux ONGD internationales. Merci beaucoup, Jean. Vous êtes ici à Kinshasa, Godefroy. Vous êtes à Ouvira, c'est ça? Bonjour, Godefroy.
Bonjour Pierrot, je suis à Ouvira.
Mm.
Bon, j'ai suivi l'invité. Et l'invité qui, je comprends pas pourquoi il s'est contredit. Il dit que l'État ne peut pas avoir un œil regardant parce que il se cache derrière le sigle ONG pour dire qu'il y a une organisation non gouvernementale. Et entre temps, il dit que l'État se les a abandonnés. Moi, je pense que c'est contradictoire. Au contraire, l'État ne s'occupe pas franchement des ONG. Il y a la loi, il y a les lois qui existent. Bon, je me souviens encore en 2010 ou 11, j'étais expert indépendant au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons traité des NETI qui organise et qui donne le fonctionnement des ONG. On devait donc le gouvernement provincial devait à tout prix suivre ce que les ONG font. Pas bien sûr entrer dans la gestion, mais quand même qu'on sache quel projet, comment orienter quand même les projets dans des territoires. Bon, je ne sais pas où ça s'est terminé. C'est ça, moi, mon problème, comme mon ami là de Kinshasa qui a dit, que l'État doit suivre. Ce n'est pas quand même une jungle. Vous venez avec votre ONG, que ce soit une ONG internationale, que ce soit une ONG au niveau local. Vous ne pouvez pas venir, vous venez seulement, vous vous introduisez, vous commencez. On ne sait même pas quel montant vous amenez et quel projet vous avez. Et vous commencez, vous voyez pancarte et vous commencez à travailler. Non, je pense que l'État doit contrôler. Moi, j'ai fait un peu la Tanzanie, j'ai fait une année en Tanzanie. Et eh bien, les fonds, tous les fonds que vous amenez, les dollars, tout ce que vous venez, les livres sterling, vous devez les verser au niveau de la Banque centrale tanzanienne. Et vous fonctionnez avec le shilling tanzanien. Vous ne pouvez pas fonctionner avec les dollars, tout ça. Donc tout est contrôlé. Même quand vous engagez, on vous suit, il y a un service qui suit, vous engagez comment? Je ne sais pas ce qui se passe ici. Moi, je pense que c'est vrai, il y a des ONG qui ont fait, qui ont aidé. Il y a beaucoup à faire. L'État, le ministre national, c'est quelqu'un que je connais, un ami. En tout cas, que ces services puissent mettre en place quand même une commission ou une équipe qui va revoir franchement cette affaire des ONG. Les ONG font ce qu'elles veulent, même si le monsieur qui est invité là va dire qu'ils sont abandonnés, mais les ONG ils sont là, donc ils font ce qu'ils veulent, ils reçoivent des millions. Ces millions se servent pour construire des bâtiments, je connais à Bukavu, des grands bâtiments construits par de l'argent des ONG et qui n'ont pas servi. Je pense que son excellence vous la bande, s'il vous plaît, et même le ministre provincial ici chez nous aussi de Kivu, qu'il mette sur place, il n'est jamais tard pour bien faire, qu'il mette en place une commission ou une équipe, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, qui contrôle les actions de l'argent qui vient, ça fait quoi? Donc voilà qui est ce que j'avais, c'est un peu un coup de gueule que j'avais, parce que c'est quand même trop, ce que les ONG font, sur le terrain.
Merci beaucoup, Godefroy, mais c'est important ce que vous avez dit. Ici, l'État ne peut pas avoir la même mise sur le fonctionnement des ONG, ne peut pas contrôler leur fonctionnement, mais du moins l'État devrait connaître qu'est-ce que les ONG font par rapport à leur orientation, quels sont les projets qu'ils ont, ils interviennent dans quel domaine, à quel niveau, leurs fonds. Tout ça, ça doit quand même être connu. Notre invité pourra bien préciser le rôle de l'État dans ce que les ONG font comme travail sur le terrain. Mais vous souhaitez qu'on ait une commission qui contrôle, qui sache combien d'ONG on a dans une contrée donnée, qu'est-ce qu'ils font comme activité, ils investissent en quoi, ils ont combien d'argent. Vous avez donné l'exemple d'un pays voisin, la Tanzanie, où tous les fonds des ONG, les fonds sont gardés au niveau de la banque centrale et c'est la monnaie locale qui est utilisée. Même quand il faut recruter, l'État doit savoir comment les ONG recrutent, combien de personnes ils sont payés, comment. Voilà un peu votre proposition. Merci beaucoup, Godefroy. Jean-Pierre, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour aussi à l'invité que je salue en passant.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres. Nous faisons le point sur l'impact de l'ONGD. Beaucoup pensent qu'il faudrait que l'État puisse avoir quand même un œil regardant pour savoir qu'est-ce qui se passe au sein de ces ONGD, comment ils travaillent, qu'ils investissent dans quel domaine, au-delà du fait qu'ils ne peuvent pas contrôler leur fonctionnement ou soit leur manière de faire. Quel est votre point de vue?
Oui, bien sûr, Pierrot. Il faut savoir que quand les ONG travaillent dans un gouvernement précis, ceci est ce qui s'est fait dernièrement. Cela pourra éveiller aussi la conscience du ministre de l'Intérieur, parce que, si je ne me trompe pas, toutes les ONG sont dans l'administration du ministère de l'Intérieur. Le ministre doit songer aussi à pouvoir contrôler toutes les ONG, parce que nous n'avons pas totalement l'esprit des patriotes. Comment ceux qui ont eu même le chance d'aller visiter le pays occidental, ils peuvent revenir escroquer les gens de la population, une pénible population qui souffre ici, et vous escroquer à une famille plus de 3 000 $ et vous évader avec cela pour ne pas réaliser les promesses. Mais les ONG, quelles que soient, ils sont aussi, ils sont et elles sont bonnes, parce que j'ai été une fois à Mweka, j'avais vu la culture du manioc que l'ONG autre avait amené là-bas. Le manioc qui comptait peut-être 3 mois. On sème le manioc à 3 mois, on commence déjà à récolter. C'est bon. Mais vis-à-vis de la situation qui s'est déroulée, moi-même aussi, j'ai été victime de cela. À Mbujimayi, quand j'étais à Mbujimayi, il y avait une ONG allemande qui était venue. On a passé le test quand il y a l'université qui fait d'Mbujimayi. Il y a eu des réussites. Ils nous auront promis qu'on devrait aller en Allemagne. Mais, et avec cette conscience-là, parce que mes camarades sont partis, mais vu la discrimination, moi, je restais au pays. Parce que, comme au moins, mon père n'était pas connu, ma mère n'était pas connue, je n'étais pas connu d'où que ce soit. Parce que pour cela, je restais. Hein? Je voudrais tout d'abord demander à l'invité pour qu'il puisse aussi m'éclaircir sur cette situation. Ce qui subventionne les ONG, qu'est-ce qui en profite? Ils en profitent quoi? Parce que moi, c'est qu'un blanc ne peut pas financer quelque chose qui va à l'encontre de ses intérêts. Un blanc finance quelque chose où il trouve qu'il y a aussi son intérêt.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous souhaitez, en vous demandant à notre invité de savoir si c'est lui qui vous donne la subvention, quel est son intérêt en subventionnant? Y a-t-il, je peux dire entre guillemets, un intérêt gratuit? Et vous souhaitez aussi que l'État puisse avoir le contrôle, le ministre de la Justice, et par rapport au fonctionnement, ce qui s'est fait, au-delà du témoignage que vous avez de la culture des manioc à Mweka, une expérience d'une ONGD, mais aussi la formation, M. Dembujma qui était parti en Allemagne, je crois bien dans le projet d'électrification, et vous vous inquiétez d'être resté. Merci beaucoup. 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Jérôme Asweki, vous êtes avec nous. Il revient plusieurs fois. Vous avez suivi les auditeurs parler du contrôle de l'État. Vous avez dit que l'État, en fait, ces ONG fonctionnent indépendamment de l'État. Quel est le degré de relation avec l'État? C'est comment? C'est l'État qui contrôle pas votre fonctionnement, mais au moins qu'il sache qu'est-ce que vous faites combien d'argent vous avez, vous investissez dans quoi, dans quel domaine vous travaillez, au moins ça doit exister quand même.
Non, je disais, je voudrais préciser une chose, quand je disais, c'est dans la gestion où l'État n'intervient pas, il faudra vraiment expliquer, éclaircir les choses. C'est pas que nous sommes vraiment dans une jungle où on fait n'importe quoi. L'État est là, raison pour laquelle il nous envoie ses agents, ses services pour pouvoir contrôler l'INSS, la DGI, et ainsi de suite, qui viennent dans nos ONG. Mais du point de vue de la gestion, là, c'est je dis, il y a une certaine indépendance quand on dit ONG, du point de vue de la gestion. Okay. Là, l'État n'intervient pas. Il faudra expliquer bien les choses. Alors, l'État, par rapport à ça, oui, il a quand même une mission de pouvoir contrôler ce que font les ONG. Parce que dans certains pays, comme venait de dire notre ami qui venait de passer avec l'expérience de Tanzanie, dans certains pays qui se respectent, en tout cas, quand les organisations internationales viennent, la première des choses, ils doivent se conformer à la loi du pays qui les reçoit. Mais ici, c'est comme si ces organisations qui viennent, bon, l'État n'a pas vraiment une certaine rigueur par rapport à ces organisations, puisque on les voit, ils traitent les organisations qu'ils trouvent sur place vraiment dans des relations terre à terre où on vous prend comme des petits enfants, et ils ne savent pas respecter les relations de partenariat avec ces organisations. Là, vraiment, nous déplorons. Mais dans certains pays, quand vous allez au Sénégal, par exemple, une organisation ne peut pas, internationale ne peut faire n'importe quoi, elle doit vraiment, c'est rallié au principe du pays. Alors, à ce titre-là, nous sentons qu'il y a vraiment une certaine position de respect par rapport aux organisations locales. Mais ici, ces ONG, quand elles viennent, des fois, et elles vous emballent dans des relations qui semblent vraiment ne pas tenir et prendre en compte le respect des partenariats vis-à-vis des organisations locales. C'est ce que nous déplorons surtout. Je ne voudrais pas citer les noms de ces organisations, mais est-il que vraiment quelque part il y a des déboires que nous fustigeons chaque jour parce que ces organisations telles qu'ils opèrent dans certains pays, y arriver en RDC, je ne sais pas, il y a laissé aller ou quoi, elles font n'importe quoi. Ça, nous déplorons. Mais est-il que l'État doit savoir qui fait quoi, comment il fait par rapport à certains principes. Donc il faudrait nécessairement que l'État puisse être derrière les organisations. C'est à ce moment-là, l'État sentirait que réellement ces organisations travaillent ou ne travaillent pas. Et vraiment, je vous dirais que quelque part, l'État a failli dans sa mission, puisque certaines ONG, celles qui se respectent, évidemment, ils travaillent pour aider les populations à pouvoir sortir de la misère. Mais quelque part, ces organisations ne sont pas soutenues par l'État. Et, comme je le disais, ils sont des laissés pour compte. C'est ça, c'est malheureux parfois.
Et il y a l'auditeur tout à l'heure, Jean-Pierre, qui voudrait savoir, quand quelqu'un subventionne une ONGD, quel est son souci? Est-ce que c'est gratuitement qu'on subventionne une ONGD? On doit avoir quand même un intérêt. Il s'étonne que quelqu'un de l'extérieur vous envoie de l'argent, par exemple des millions ou des milliers de dollars uniquement pour vous soutenir, sans qu'il y ait un intérêt. Est-ce que c'est possible qu'on vous soutienne sans intérêt?
Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas aucune action sans intérêt. Toutes ces organisations qui viennent, qui appuient quelque part, ils se retrouvent. Soit qu'ils ont leur emploi qu'ils gardent, et c'est ce qui fait qu'ils trouvent leur salaire régulièrement, mais aussi, et ce sont des dettes indirectes qui contractent notre pays. Ces financements ne croient pas que c'est de l'argent qu'ils viennent jeter. Quand ils viennent remettre, et ils les récupèrent d'une manière ou d'une autre. Donc ce sont des dettes, et vous verrez, la RDC est endettée à tel niveau. Il y a aussi, entre autres, ces appuis extérieurs qui entrent dans ces dettes. Mais ces organisations, il faudra les mettre en tête que quand ils appuient, certainement ils se retrouvent du point de vue de leur situation socio-économique. Ils ont de l'emploi, ils sont payés pour ça, ils doivent automatiquement appuyer. C'est comme nous ici en RDC, nous avons nos organisations de la base que nous appuyons. Qu'est-ce que nous gagnons en revanche? Nous avons nos salaires, nous gardons nos emplois, et c'est à ce titre-là que nous bénéficions. Ça, c'est notre intérêt. C'est la même chose pour ces organisations qui sont à l'extérieur du pays, qui viennent appuyer. Ils ont des financements qu'ils reçoivent, soit de leur gouvernement, soit des bailleurs de fonds. Ils les versent ici, et en revanche, soit qu'ils ont des intérêts qu'ils tirent du point de vue social, du point de vue économique, mais aussi quelque part là-bas, il y a des transactions qui se font qu'on n'arrive même pas à maîtriser.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter Adrien qui est à Kananga, Alphonse et à Arou en province orientale. Juste après aussi le flash information des radios qui va intervenir tout à l'heure là. Mais Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Pierre Lamège.
Nous faisons les points sur l'impact des ONGD dans nos milieux. Comment on peut aussi améliorer leur travail, leurs prestations, votre contribution?
Oui, merci, Pierrot. Avant de répondre à la question, d'une manière générale, j'aimerais vous dire, c'est comme ça s'appelle organisation non gouvernementale, c'est-à-dire ça échappe donc au contrôle ou bien à certaines gestions du gouvernement. Parce que si nous allons dans le sens de notre invité tel qu'il venait de le dire, on changerait de nom, peut-être on appellera une institution d'appui à la démocratie ou bien une institution gouvernementale. Là, c'est de un. Et de terreur, je ne mérite pas qu'on puisse généraliser ou bien qu'on puisse jeter des pierres sur les organisations non gouvernementales parce que, donc, en partant d'un comportement posé par un individu faisant partie d'une organisation. Là, ce n'est pas logique et ce n'est pas normal parce que nous sommes tous témoins que ces organisations non gouvernementales abattent un travail d'étudiant dans notre République démocratique du Congo. Revenons maintenant à la question par rapport à ma province du Kasaï occidental. Je vous assure sans embâche que la majorité des organisations non gouvernementales font très bien vraiment leur travail. Et puis, lorsque vous prenez le cas de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, c'est une organisation qui est toujours partout, qui est toujours à la rescousse des démunis, qui dénonce lorsque la justice n'est pas bien pratiquée, qui dénonce lorsqu'il y a une injustice sociale. Donc, de ce côté-là, pour la province du Kasaï occidental, je dis chapeau bas aux organisations non gouvernementales. Et puis, deuxièmement, c'est vrai, là où il y a l'organisation humaine, le dérapage ne manque pas, parce que même dans notre province ici, nous voyons quelques minorités d'organisations non gouvernementales qui se comportent comme des partis politiques d'opposition, donc ils sont là pour dénoncer un mal ceci, mais lorsque ça marche bien, ils ne viennent pas pour encourager ou bien féliciter ou bien prendre des mesures de précaution. Je vous donne un cas peut-être ce par là que je pourrais citer.
En 10 secondes,
vous savez qu'il y a ce que nous appelons les enfants de la rue, qui dérangent, qui ravissent, qui font n'importe quoi, mais les organisations non gouvernementales croisent les bras.
Voilà, merci beaucoup Maître Adrien, vous êtes à Kananga, vous avez donné un bon témoignage. On va se retrouver tout à l'heure avec notre invité et Alphonse Darou après le flash information des Radio Capi. Merci pour ce flash information des Radio Capi. Deuxième partie des paroles aux auditeurs dans 13 minutes. On va terminer cette émission consacrée bien sûr à l'impact du travail des ONGD dans la communauté. Nous en parlons avec Jérôme Mansuki qui est l'assistant technique au conseil provincial des ONGD ici à Kinshasa. Vous avez été très nombreux à vous exprimer. Nous avons encore sur les antennes Alphonse qui nous appelle d'Aru en province orientale. Bonjour Alphonse.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs, en passant par notre invité. C'est bien sûr le fédéral Alphonse Boudil-Kélin qui est un des membres fondateurs de l'ONG Programme de Développement Rural EDER en sigle qui est basé à Ingoko, le territoire d'Aru. Monsieur Pierrot, pour la petite histoire, les ONG sont nées, ça c'est, je voulais compléter notre invité. Donc les ONG sont nées vers les années 1940-45, c'est là que ça a réalisé la Première Guerre mondiale et nous sommes en Occident. Donc, voilà la souffrance que subissaient les victimes et les rescapés de cette Première Guerre mondiale. Certaines personnes, notamment les religieuses, ont eu pitié, de compassion, de soucis, etc., pour voir comment soulager les souffrance de blessés, d'où naîtra l'idée de protection et même le monde à cet effet. Par ailleurs, dans le même contexte, Saint-Vincent de Paul a institué en 1607 la congrégation des religieuses qui dévoue au soulagement des pauvres et des malades. Alors, cette congrégation est baptisée Fille de Charité. Bref, maintenant que les ONG sont avant tout des œuvres caritatives et non capitalistes. Pierrot, dans notre coin, la population est dans une déception totale parce que les quelques ONG qui étaient de passage dans notre coin ont trompé la population locale en fixant des gros panneaux de visibilité surtout près de la route sans pour autant répondre aux besoins réels et prioritaires du milieu. De façon globale, comme ont dit mes prédécesseurs, les ONG se caractérisent par le détournement des fonds, l'escroquerie, la non-implication de la population locale dans la réalisation des projets une concurrence déloyale d'activités avec des associations locales, mais aussi un recrutement relatif à la parenté et j'en passe. Bref, les Tunisiens ne répondent pas aux besoins de la communauté locale, mais surtout à leur poche, pour dire autrement, à leur ventre. Donc, elle perd ses désintérêts. À cet effet, je propose que chaque fois la société civile ait un droit de regard à toutes les activités des ONG, d'une part, et d'autre part, que l'ONG qui réalise un projet qu'une association locale en a commencé doit la relever et non la rabattre ou l'étouffer. C'est pourquoi je termine par deux questions. La première question est celle-ci. Que faire face à une ONG qui vient rabattre ou une ONG qui vient étouffer les associations locales? Et que dit la loi? Et la deuxième question, nous voyons ce dernier temps, il est dit que les ONG sont apolitiques. Et nous constatons que beaucoup de nos politiciens cherchent à les créer. Est-ce qu'il y a compatibilité entre la politique et la politisme? Je peux prodiguer à ces politiciens qui veulent politiser les ONG. Merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup, Alphonse. Mais malheureusement, vous avez dit, vous êtes l'un des fondateurs d'une ONGD à Imbokolo, mais vous n'avez pas dit concrètement ce que votre ONGD fait sur terrain, ce que la population a déjà bénéficié de votre travail, Alphonse.
Ah, merci beaucoup. Notre ONG a une bonne réputation, monsieur Pierrot. Nous plantons des arbres pour les églises, les écoles, les associations locales, les documents administratifs, les formations sanitaires. Même si vous posez une question à tous ceux qui se trouvent à Indopolo, ils vont vous donner des bons témoignages. Donc,
merci.
Nous aussi, nous essayons de nettoyer les mauvaises idées qu'avait notre population locale, parce que trompée par, comme je l'ai dit au départ, par certaines ONG qui étaient des passages. Alors, nous nettoyons, nous voyons que ça donne vraiment de bons fruits.
Merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces témoignages.
Oui, ça c'est.
Oui, c'est bon, parce qu'il y a un dernier auditeur sur les antennes, il est temps que l'invité puisse conclure. Hein. Mais du moins, c'est important quand même que vous ayez témoigné ce que votre ONGD fait sur le terrain. Mais vous avez posé la question à l'invité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qui dit la loi, s'il y a une ONGD, par exemple, internationale ou nationale, étouffe une autre sur le terrain. Et puis aussi, hein, il y a des politiques aujourd'hui qui se sont lancées à la conquête des ONGD. S'il faut considérer qu'ils sont indépendants de la politique et alors que le politicien crée des ONGD, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Ça devient compliqué selon votre inquiétude. Nous allons terminer cette émission avec François qui nous appelle de Kolwezi dans la province du Katanga. Bonjour François.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs auditrices de la radio Papi.
On a des petits soucis avec votre ligne, mais déplacez-vous un tout petit peu rapidement aussi votre point de vue pour permettre à l'invité de conclure cette émission.
Bien sûr, j'aimerais justement parler de l'impact de ces ONG. Ici chez nous, à Kolwezi, depuis d'abord par définition ou tout ce qui peut représenter une ONG, c'est bien sûr une organisation non gouvernementale qui a pour but d'être d'une manière ou d'une autre, d'avoir un certain impact sur le développement de certains aspects de notre vie, soit sociale, soit écologique ou éducationnelle, sur certains points là-bas. Mais le point à relever, c'est que les ONG là-bas, qui sont nationales, tout comme internationales, ne sont pratiquement pas du passage chez nous en Colombie. C'est que certains aspects économiques, sociales ou éducationnels que je viens tout de suite déceler sont en train de souffrir peut-être par manque de logistique, par manque peut-être de ressources humaines. Donc l'impact pourrait être aussi important, mais fort malheureusement pour nous. Je n'ai entendu aucune ONG sur place manifestant peut-être des fois l'envie de faire progresser tel autre aspect de la vie sociale pour le vivant. J'appellerai à notre invité de voir aussi quelles sont les faisabilités, les moyens qui pourront nous mettre en jeu pour voir comment intégrer notre secteur et pour le vivant.
Merci, merci beaucoup, François. Vous souhaitez qu'au niveau de Cranc, que ça soit Cranc, s'il peut voir comment aider la population des Colosies, qu'elle puisse aussi bénéficier des actions des ONGD, parce que vous ne le voyez pas tellement travailler, quelques-unes des passages, mais il n'y a pas vraiment l'impact. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, Jérôme Mansouki. Vous êtes avec nous? Jérôme Mansouki, vous êtes avec nous? Si la réalisation peut voir rappeler notre invité pour lui permettre de conclure cette émission, je rappelle encore à nos auditeurs que nous avons débattu sur la situation et l'impact des ONGD dans la communauté. Tout est parti de cette escroquerie est dénoncée par une cinquantaine des ONGD féminines qui accusent leur présidente de les avoir escroqué près de 100 000 dollars américains avec promesse d'effectuer des divers voyages vers l'extérieur. C'est là n'a pas marché. Cette question, cette situation relance le débat sur l'impact des ONGD qui sont comptées et par milliers dans un RDC. Plusieurs propositions. Beaucoup de gens pensent qu'il faudrait que l'État puisse avoir un regard sur ce qui s'est fait dans les organisations non gouvernementales, savoir dans quel domaine ils investissent exactement, comment ils gèrent leurs fonds pour éviter qu'on puisse avoir des ONGD bidons qui escroquent la population ou soit qui reçoivent des fonds sur le dos de projets, et les projets qui ne sont pas exécutés. Il y en a qui sont allés plus loin, de voir même si il serait mieux d'avoir une loi qui permette à l'État d'avoir vraiment le contrôle. On revient à vous rapidement, Jérôme Mansouki, vous êtes avec nous maintenant? Oui, Jérôme Mansouki, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, je vous suis.
Voilà, juste deux minutes pour conclure cette émission. Il y a les auditeurs qui sont revenus presque sur les mêmes questions évoquées depuis le début de cette émission, mais il y en a aussi qui ont posé la question de savoir, mais aujourd'hui on voit aussi les politiciens créer des ONGD, ça devient très compliqué s'il faut garder les caractères apolitiques d'une ONGD alors qu'il est créé par un politicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, eu égard à tout ce qui a été dit, en deux minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le travail des ONGD dans la communauté?
Donc, comme je le disais, le travail des ONG dans la communauté est un travail très précieux. Donc, j'avais dit au début que les ONG aujourd'hui, ils jouent un grand rôle d'accompagnement de l'État dans sa mission régalienne. Puis c'est là où l'État n'arrive pas à faire quelque chose, ce sont les ONG qui le font, parfois mieux que l'État. Donc nous voyons partout des organisations, il y en a, comme viennent le dire les amis, ils ont critiqué certains comportements, mais quand même il y a des ONG qui font un travail impeccable sur le terrain. Ça, nous ne devons pas vraiment accélérer la base. Il y a des comportements que nous fissons, mais en tout cas, quelque part, il faut qu'on reconnaisse que les ONG travaillent dans plusieurs secteurs. Alors, si nous disons qu'il y a des policiers qui créent leurs ONG, c'est pour des réseaux purement et de positionnement, ça on ne peut pas peut-être se foiler la face, mais ça sort de l'éthique des ONG. Quand on dit une ONG, d'abord c'est apolitique, mais quand on crée une ONG par un policier, la policier d'abord c'est une personne, peut-être qu'il a des intérêts cachés, mais pour raison pour laquelle il crée ses ONG, mais en tout cas, de notre côté, quand on change de ligne de conduite, vraiment, cette personne n'est pas la nôtre. Donc, nous regrettons de pareils comportements.
Merci. Nous vous disons merci à Jérôme Mansouki d'avoir commenté ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi. Je rappelle que vous êtes assistant technique au Conseil provincial des ONG de développement ici à Kinshasa. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci également aux auditeurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention.
Allô? Mais qui ne répond pas?
On se retrouve demain, jeudi 15 août à 11h30, heure de Kinshasa, pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Et nous allons faire le point sur le travail de la police de proximité et dans votre milieu. Merci à Titi Mputu, Berry Franklin, Luchaka, Paul Badanyama qui nous ont aidé à produire cette émission supervisée par Ben Kabamba. Vous allez la retrouver ce soir à 20h30, heure de Kinshasa, en FM, mais aussi sur www.radiocapi.net. Au revoir.